Parole de lecteur. Parole de lecteur. Une émission de Monique Fauché.
Nous adaptant aux conséquences de l'épidémie du coronavirus, c'est aux lecteurs que nous donnons la parole, aux lecteurs qui peuvent ainsi partager avec nous leur coup de cœur. Aujourd'hui, Bélita de Bingie nous fait découvrir un personnage peu connu à travers le roman d'Isabelle Allende intitulé « Ignace de mon âme ». Bonjour Bélita de Bingie. Oui, il y a Bella Bélita dans Giraudoux, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Voilà, Bélita de Bingie, bonjour et merci de venir nous parler de quelqu'un qui est tombé dans l'oubli, comme beaucoup de femmes qui ont eu des comportements héroïques, parce que je dois vous avouer que cette personne, Ignace Suarez, ben, je ne la connaissais pas du tout, je vous l'avoue. Alors pourquoi le choix de ce livre, qui n'est pas vraiment un roman-roman, c'est un roman historique, pourquoi le choix de ce livre?
Alors, pourquoi le choix de ce livre? Parce que, quelque part, c'est une histoire de femme et on ne parle pas assez des femmes. Et cette femme a été extraordinaire au XVIe siècle. Voilà, il y a toujours eu des femmes extraordinaires, mais celles du XVIe siècle, on n'en parle jamais et elles sont méconnues.
Oui.
Alors,
j'ai l'impression que vous avez un attrait particulier pour l'Espagne, son histoire, sa culture, non? Je me trompe?
Alors, je suis passionnée par toutes les femmes qui font des choses extraordinaires en tant que femme. Et Inés Suarez est la dernière que j'ai découverte. Mais je suis très admirative, par exemple, de la femme de Churchill. Enfin, il y a des tas de femmes qui ont vraiment... que j'admire.
Clémentine.
Clémentine, absolument. Il y a tant de femmes dont on parle peu et qui ont un rôle très important. Clémentine à côté de Churchill et la Inès à côté de Pedro de Valvidra pour la conquête du Chili.
Voilà. Alors, l'auteur de cet ouvrage, c'est Isabelle Allende. Alors, je dois vous avouer que j'ai commencé, en préparant mon émission, j'ai commencé à faire un contresens en savoir que j'ai pensé que c'était la fille d'Allende qui s'appelait Isabelle. Mais non.
Alors, en fait, Isabelle Allende, l'écrivaine, est la nièce du président. Son père, qui était diplomate, était le cousin du président du Chili. Elle est née au Chili, Isabelle Allende. Elle a été obligée de partir quand son oncle a été assassiné. Et cette femme qui avait déjà un poste important au Chili, puisqu'elle parlait à la radio, elle écrivait, elle a enseigné. Elle est partie après s'installer au Venezuela et elle n'a pas écrit tout de suite. C'est quand son grand-père a eu 99 ans qu'elle a voulu commencer à écrire à son grand-père des idées qui lui venaient du Chili. Et en fait, en écrivant à son grand-père, elle a mis sur papier le début de sa première œuvre qui est La maison aux esprits, qui a été un immense chef-d'œuvre.
Et qui a été porté à l'écran, m'avez-vous dit, hors antenne.
Voilà, qui a été porté à l'écran, qui a été traduit en 40 langues et qui a fait d'elle tout de suite une écrivaine très connue. Mais ça serait dommage de réduire Isabelle Allende à ce seul livre, qui est vraiment un bijou.
Je vous interromps juste un instant, Bélita de Bingie, pour vous dire... elle dit à un moment donné, je l'ai lu dans une interview, qu'elle appartient à la fois à la culture espagnole et à la culture indigène. C'est peut-être d'esprit.
Alors peut-être d'esprit, oui, parce que ça, je ne vois pas comment je pourrais le dire. Parce que quand même, c'est une
pure espagnole.
C'est une pure espagnole, oui. Oui, je pense que c'est une pure espagnole, oui.
D'accord. Et... une vocation internationale, parce que j'ai fait le compte de ces départs, de ces déménagements, de ces va-et-vient entre différents pays. C'est incroyable, cette activité qu'elle avait.
Oui, Isabelle Allende a vécu dans de nombreux pays, qui prouve quand même son ouverture d'esprit ses grandes capacités, parce qu'elle a été vraiment dans le monde entier. Elle a vécu en Amérique, elle a vécu en Suisse, elle a vécu en Allemagne, elle a vécu au Venezuela, elle est née au Pérou, elle a vécu au Chili.
En France ?
Pour moi, elle n'a jamais vécu en France. Donc non. Ça, je n'ai pas trouvé qu'elle ait vécu en France. Et c'est une femme qui ne fait pas les choses à la légère. D'ailleurs, pour écrire Inès de mon âme, qui pourrait s'appeler Donna Inès, Elle a mis 4 ans à chercher des informations dans des livres qui avaient déjà été écrits, parce que Inés Suárez a bien sûr existé, et Pedro de Valdivia est un seigneur espagnol, enfin un aristocrate espagnol, qui est parti à la conquête du Chili. Voilà, du temps de Charles
Quint. Donc, c'est un roman historique sérieux.
C'est un roman historique sérieux qui se lit avec facilité parce qu'il est agrémenté d'une histoire d'amour qui est complètement vraie, mais qu'on pourrait peut-être dire une histoire d'amour de notre époque, ce qui fait que le livre se lit très facilement, mais en même temps, nous apprenons des tonnes d'informations sur la conquête du Pérou, sur la conquête du Chili, sur le massacre des Incas, sur l'époque de Charles Quint, sur comment vivaient les officiers.
C'est très
documenté. C'est très documenté et rien n'est faux.
Oui, alors déjà son travail de journaliste, puisqu'elle a écrit, si je me souviens bien, dans différentes revues, elle a été journaliste, elle a écrit des articles, etc. Donc ça l'a aidé aussi à construire son ouvrage, probablement.
C'est une femme qui rédige très bien. Oui. C'est une femme qui a un style qui est très facile à lire. Certains la comparent, la critiquent et disent qu'elle a copié certains auteurs. Non, moi je pense que c'est un style personnel et authentique et sincère. Et une grande psychologue quand même dans son analyse des faits.
Alors, il me semble qu'on peut relever d'une part le traumatisme de ce coup d'État qui a mis Pinochet au pouvoir et la mort de son oncle.
Oui.
Alors, on a parlé de suicide, mais beaucoup penchent sur la thèse de l'assassinat, finalement.
C'est ce qu'elle dit, elle. Oui.
C'est ce qu'elle dit aussi, oui, parce que, un suicide, en l'occurrence, on se demanderait pourquoi exactement. Ou alors, pour ne pas tomber entre les mains, évidemment, des assaillants. Mais elle a vécu également un autre drame, la mort de sa fille.
C'est exact. Oui. Elle a perdu une de ses filles. C'est ce qui lui a permis d'écrire après son livre « Paula ». Qui est le nom de cette fille qui est décédée et qui l'a quand même bouleversée. Alors, ça prouve encore un trait de caractère d'Isabelle Allende, c'est une femme qui rebondit.
Oui, donc elle a su. Une femme forte.
Une femme très forte, parce que quitter le Chili après l'assassinat de son oncle et porter le même nom que le président assassiné ou même qui s'est suicidé, c'était quand même très difficile. Et donc c'est une femme qui ne s'est jamais laissée aller et qui rebondit toujours après le départ du Chili et après la mort de sa fille.
D'ailleurs, elle dit que c'est la mort de sa fille qui lui a permis d'écrire. Qui lui a permis d'écrire, disons qu'elle a écrit un livre magnifique sur l'amour maternel.
Ah, c'est possible. Alors, je n'ai pas lu celui-là, et c'est possible qu'il soit beau aussi. Je n'ai lu que 3 livres d'Isabelle Allende, mais celui-là, je ne l'ai pas lu.
Alors oui, il y a une phrase, parfois j'aime bien noter certains propos, une phrase qu'elle a dite, écrire l'a sauvée de la paralysie existentielle que tous les drames de la vie et de l'histoire ont produite en elle. C'est été au contraire un moteur. Et comme vous dites, elle rebondit.
Elle rebondit, oui. Mais elle avait un talent pour l'écriture quand même, parce qu'on ne s'improvise pas. Pour écrire des romans qui sont lus dans le monde entier, elle devait quand même avoir ça en elle.
Oui. Alors, internationale ou apatride ?
Ah, quelle question. Non, je préférerais dire internationale.
Internationale,
oui. Oui. Je préfère ça.
Et bien entendu, une féministe.
Oui, une féministe. En tout cas, oui, les livres que j'ai lus d'elle mettent souvent les femmes à l'honneur. Et oui, c'est une féministe, certainement. Certainement. Et pour écrire ce qu'elle a écrit, ce qu'elle a trouvé comme information sur Inés Suárez, la mettre à l'honneur, il faut de l'audace.
Oui, certainement.
Pour mettre une femme comme ça. Une histoire d'amour avec une histoire de conquistadora, en réalité. Inés Suárez, c'est une conquistadora. Est-ce la seule ? On ne parle toujours que des conquistadors, à l'époque de Charles Quint.
Il devait y avoir d'autres femmes.
Alors, je ne sais pas, je n'en connais pas d'autres. Mais
écrivant, non.
Je ne sais pas. En tout cas, Inés Suárez est une conquistadora et Isabelle Allende l'a mis à l'honneur. Et c'est formidable parce que c'est un exemple quand même de courage, cette Inés Suárez, grâce à Isabelle Allende, qui est elle-même une femme admirable dans son genre.
Et quand vous dites féministe, j'ai justement un extrait d'une interview où elle dit « Le statut encore très vulnérable des femmes dans le monde me préoccupe beaucoup.
Oui.
Nous vivons aujourd'hui dans un monde désarçonné où des guerres très meurtrières, l'impérialisme et le fondamentalisme si j'arrive à le dire, fondamentalisme religieux, ont pignon sur rue. Dans ce monde très inégalitaire, les femmes risquent de perdre les rares acquis qu'elles ont gagnés à la suite de luttes homériques qu'elles ont menées pendant plusieurs siècles. Un combat qui est loin d'être fini. Dans une guerre, les femmes et les enfants sont toujours le dommage collatéral. Et on l'observe encore.
On l'observe encore, c'est tout à fait vrai. Dans le livre « Inès de mon âme », Inès Suarez reconnaît qu'en Espagne, elle n'est rien qu'une petite couturière, et sans fortune, et en plus, elle ne se trouve pas belle. Et en tant que femme qui réfléchit et qui a envie de s'en sortir, elle se dit « je n'ai aucune chance en Espagne, donc il faut risquer le tout pour le tout ».
Alors Isabelle Allende, vous me l'avez dit d'ailleurs, elle est charmante. Elle n'est pas, autant Inès n'est peut-être pas très jolie, Isabelle Allende a du pep.
Oui, oui, elle a du peps et elle est belle, oui.
Voilà,
oui,
voilà.
C'est une très belle femme.
Bon, et elle a reçu un conseil d'un parent, je crois, n'oublie jamais que les autres ont toujours plus peur que toi. Alors évidemment, ça lui donne du tonus.
D'accord.
Si vous voulez bien, nous allons écouter un premier choix de votre part. Une petite, il s'agissait c'est Montserrat Caballé,
oui,
qui chante, et vous l'avez choisi parce que vous aimez.
Oui, oui, parce que je trouve que c'est magnifique, et en fait, le titre c'est « Soy de España », ça veut dire « Je suis d'Espagne », et en fait, Inés Suárez vient d'Espagne,
oui.
Donc je trouve que, et après, elle devient complètement d'Amérique du Sud, mais au départ, elle est d'Espagne, et c'est d'Espagne que tout se passe.
D'accord, nous écoutons, et malheureusement pas intégralement, parce que c'est très long, mais on écoute un extrait.
Parole de lecteur. Monique Fauché.
Voilà, nous venons d'écouter Montserrat Caballé et cette belle voix très prenante. Et nous reprenons notre entretien avec Bélita de Minger qui vient nous parler d'un livre d'Isabelle Allende, Inès de mon âme. Alors, c'est un roman dont vous dites qu'il se lit très facilement. Très. C'est un, à la fois historique, un roman d'action et un roman de passion.
Tout à fait. C'est ouais. tout à fait ça. Donc, ça peut se lire au bord de la plage, mais en apprenant plein de choses.
C'est très bien. Vous voyez, on est au mois de juin. C'est ce qu'il faut, c'est voilà. ce qu'il faut dire. Alors, on parlait de son féminisme, mais ce féminisme, il est ancré également par l'observation, par le fait de sa mère qui s'est retrouvée seule et qui a été un peu la grande fille surveillée par la famille, d'après ce que j'ai compris. Ma mère a été abandonnée par mon père, sans éducation, sans travail, seule pour élever ses trois enfants, et elle a dû s'installer chez mon grand-père, une maison d'hommes, où elle et moi étions les seules femmes au milieu des oncles, grands-pères, frères, etc. C'était une victime sans argent, ni indépendance, ni pouvoir. Quand j'ai eu 5 ans, je savais déjà que je ne voulais pas ça pour moi. Ça ne m'étonne pas, Bélita, que vous ayez choisi cette...
Oui, alors là, vous me donnez une information que je n'avais pas. D'accord, je ne savais pas que c'était si tôt que son père l'avait abandonnée.
Oui, elle dit, ma mère était effrayée, elle pensait que je recevrais beaucoup de coups, mais je trouvais que c'était le bon prix à payer pour être libre. Sacré bout de femme. Hein.
Oui, oui, c'est une femme qui ne baisse jamais les bras, ça c'est certain.
Oui.
Je pense que c'est une femme qui n'a pas subi le traumatisme, qui en a profité pour dire « moi, ça ne m'arrivera
pas ». Ça ne sera pas comme ça.
Ça ne sera pas comme ça pour moi.
Alors, on comprend ce traumatisme qui n'est pas un traumatisme, donc une conviction ancrée, également par rapport à ce renversement quand Pinochet est arrivé. Ça a été également un événement qui est marquant dans la famille.
Dans la famille et dans le pays, c'est un événement
pays,
terrible.
Oui, bien sûr.
Oui, 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 oui. Oui, parce que c'est son oncle quand même, et son père a quand même été diplomate, donc elle avait l'habitude, c'est une jeune fille ou une jeune femme au début qui avait l'habitude d'un milieu cultivé, d'un milieu où on réfléchit, d'un milieu... Et c'est sûr qu'elle a l'habitude des écarts de vie. Elle passe de Caribe en Scylla, je dirais, mais jamais elle ne baisse les bras. Jamais elle ne baisse les bras. Et en réalité, toutes ces héroïnes, parce que c'est pareil dans La Maison aux Esprits ou dans Inès de mon âme, les femmes ne baissent jamais les bras. Et en fait, elle est comme ça. Donc c'est pour ça qu'elle écrit si bien sur ces femmes.
Ce sont des battantes.
Ce sont des battantes heureuses.
Oui.
Ce sont des battantes heureuses parce que ces héroïnes sont heureuses. C'est ça qui est agréable.
Oui, oui, oui,
la
oui.
vie est dure, mais elles sont heureuses. Elles aiment la vie.
Et
comme Isabelle
Allende. Elles sont à la place qu'elles ont choisie.
Absolument.
Ouais.
Elles sont... au prix d'une lutte terrible, mais...
Oui.
Et elles font réfléchir. Et les femmes et les hommes, elles remettent les hommes en question. Et Isabelle Allende a certainement remis beaucoup d'hommes en question. Et Inès, de mon âme, a remis des tas d'hommes en question. Et dans La Maison aux Esprits, l'héroïne Meryl Streep dans le film remet en question par son... c'est une femme qui est très belle par sa féminité et en même temps le pouvoir qu'elle a sur son mari et sur les Indiens qu'il aime. Mmh. Parce que ça se passe aussi au Chili.
Oui, 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 tout à fait. Est-ce que vous n'auriez pas, par hasard, un petit extrait à nous lire ?
Alors, j'ai bien sûr plusieurs extraits. Alors, évidemment, c'est une féministe qui vous parle, mais une féministe quand même très douce. Et là, je vais vous lire un petit passage de Inès quand elle est au Chili.
Et on parlera vraiment d'Inès ensuite, mais lisez-nous cet extrait et on aura une idée déjà du style d'Isabelle Allende.
Alors, ma jeunesse s'en allait, ma vie s'usait. Qui ma vertu pouvait-elle bien intéresser ? Qui me jugeait ? J'en vins à la conclusion que Dieu devait être plus complaisant dans les Indes qu'en Estrémadure d'où je venais. S'il pardonnait les offenses commises en son nom, contre des milliers d'indigènes, il devait certainement pardonner les faiblesses d'une pauvre femme. Donc déjà, ce petit passage montre qu'elle se pose des questions sur savoir ce qu'elle va faire.
Et elle a une certaine logique.
C'est une femme qui réfléchit. Le livre est plein de petites anecdotes.
Elle réfléchit par elle-même.
Elle a déjà du recul. Elle voit ces hommes qui sont des brutes et en même temps qui sont des chefs, qui veulent conquérir un pays au nom de Charles Quint, au nom de l'Église. Et elle se rend compte des abus et elle se rend compte de la place faite aux femmes et elle se demande quelle place. Est-ce qu'elle va rester une petite couturière qui fait de la cuisine et qui fait de la couture puisqu'elle a les deux facettes, ou est-ce qu'elle va jouer un rôle? Et finalement, elle va jouer un très grand rôle.
Oui, Oui, et c'est, on comprend, compte tenu de la personnalité d'Isabelle Allende, on comprend qu'elle ait choisi cette femme. Parce qu'à un moment donné, elle parle des femmes au pouvoir, Isabelle Allende, hein, non pas dans ce livre, mais ailleurs. Je crois que si de plus en plus de femmes pouvaient mettre à disposition leurs compétences au service de la gestion du monde, notre avenir serait plus équilibré, plus juste, certainement meilleur. Ainsi, le système patriarcal qui fait encore autant de dégâts, même au sein des sociétés occidentales, pourrait être réformé et amélioré. Et vous savez pourquoi je lis ça ? C'est que j'ai entendu une émission, je ne sais plus sur quelle chaîne, où on parlait des pays qui s'étaient le mieux tirés de cette pandémie, c'était des pays dirigés par des femmes.
Tout à fait.
Bon, alors messieurs, voilà, écoutez bien.
Voilà, deux femmes qui parlent à la radio, est-ce qu'ils sont d'accord ?
Bien sûr. Oui, alors je ne sais pas si Christophe va être d'accord, notre technicien en chef. Alors... Voilà, donc Inés Suarez, cette biographie, elle a choisi, donc on sait maintenant pourquoi elle a choisi, parce que...
On le comprend en tout cas, on comprend très bien.
Oui. Voilà, donc c'est l'époque, ça se passe, ça se situe au XVIe siècle.
Tout à fait.
Alors l'Espagne au XVIe siècle, c'était comment ?
Oh, c'est épouvantable, les femmes n'existent pas, elles sont faites pour servir. Alors Inés Suarez, donc, est d'un milieu très pauvre... Sa mère est couturière, son père est menuisier, et son grand-père, qui est un tyran domestique, a décidé que puisqu'elle n'était pas très jolie, elle resterait à la maison pour s'occuper de lui jusqu'à la fin de ses jours. Mais cette jeune femme a décidé qu'il n'en serait pas comme ça, même si elle n'a pas de dot, puisque tout l'argent du grand-père et de ses parents doit aller à sa sœur, qui se mariera, elle, puisqu'elle est plus plaisante physiquement. Il n'y a qu'une dot à donner dans cette famille. Inès a décidé qu'elle coudrait, qu'elle allait coudre et qu'elle allait gagner et faire sa propre dot. Et alors, comme elle est quand même très vivante, elle rencontre un homme qui s'appelle Juan de Malaga, qui est un très bel homme et qui trouve cette femme vive comme du vif argent. Et finalement, c'est Inès qui fournit sa dot et il l'épouse. Mais ce très bel homme, qui est un amant merveilleux, sera finalement un très mauvais mari, il court à droite et à gauche, et il partira, c'est quand même une chance pour Inès, il partira pour le Pérou pour gagner de l'or.
Donc, et pour fuir sa femme, peut-être ?
Non, pas du tout.
Non ?
Pas du tout, parce qu'en fait, sa femme ne le gêne pas, il a toutes les aventures qu'il veut, donc à l'époque, les femmes ne peuvent pas se rebeller, oui. En Espagne en tout cas. Oui. Donc il dit un jour à sa femme, « Je pars en Amérique ». Pour trouver de l'or, je reviendrai riche. Et il part en laissant sa femme sans un sou. Et c'est une chance pour Inès, puisqu'elle pourra partir là-bas chercher son mari.
Avec l'argent qu'elle a gagné, finalement.
Avec l'argent qu'elle gagne. Alors là, elle a payé sa dot, elle fera vivre sa famille, et elle prendra de l'argent qu'elle aura gagné elle-même en faisant de la couture et en faisant de la cuisine. Parce que finalement, comme elle est astucieuse, elle fait de très bons pâtés et de très bons friands qu'elle vendra dans le monde entier qui la sauveront. Sa couture et la cuisine la sauveront. Et en même temps, elle apprendra avec les sœurs à soigner les malades. Et donc, elle sera utile partout. Et donc, finalement, comme il n'y a pas d'infirmière, il n'y a pas de cuisinière, il n'y a pas de femme audacieuse à l'époque, ou très peu, elle sera acceptée partout et elle pourra partir sur un bateau.
Parce que, alors, permettez-moi l'expression, elle est sacrément gonflée, parce que partir au XVIe siècle sur ces bateaux...
Oui.
Qui était quand même, on n'était jamais sûr d'arriver.
On n'est jamais sûr d'arriver. Alors, elle doit partir sur un bateau si elle emmène quelqu'un avec elle, une autre femme, parce qu'elle ne peut pas être seule femme sur un bateau. Et alors, elle a une nièce qui paraît un peu simplette et qui veut être sœur, qui veut être religieuse. Et alors, la famille lui dit, bah, prends-la, ça va nous débarrasser, tu la mettras dans un couvent, dans ce pays, et elle deviendra bonne sœur là-bas. Alors, elle emmène sa nièce qui a 14 ans. Donc elle a 20 ans ou 22 ans et sa nièce a 14 ans, elle part sur le bateau dans des conditions épouvantables pour manger, la nourriture est épouvantable, l'hygiène est épouvantable, les hommes les regardent, parce qu'évidemment il n'y a que deux femmes sur
deux
le
femmes
bateau.
Oui, deux femmes seules en plus, oui.
Et en réalité, sur le bateau, il y a un homme qui va tomber amoureux de sa nièce Et sa nièce ne voudra plus du tout être bonne sœur, ne voudra plus du tout être religieuse. Et à peine arrivée en Amérique du Sud, la nièce sera mariée avec cet homme et elle partira et elle sera très heureuse. Ce qui fait qu'Inès a les mains libres.
Tout à fait libre. Elle n'a plus à chapeauter sa nièce.
Elle n'a plus la nièce sur les bras et elle pourra se débrouiller comme elle peut et gagner un peu d'argent parce que finalement, l'argent, la vie coûte très cher en Amérique du Sud. Et elle pourra se débrouiller et faire attention il y a quand même beaucoup d'hommes qui lui font la cour et dont elle ne veut pas, et parfois savoir donner des coups de casserole sur la tête pour se défendre, parce que les hommes sont comme des bêtes quand même. Il y a très peu d'Espagnols en Amérique du Sud, et évidemment une Espagnole qui est un peu astucieuse, ça déchaîne les passions. Donc elle doit aussi se battre contre des hommes pour rester une femme qui n'a pas envie de se prostituer, pas du tout. Parce que les hommes croient que c'est une prostituée, ce qu'elle n'est pas du tout.
Alors, Bélita de Bergige, on va avoir une autre pause musicale, pas très longue. Alors, de quoi s'agit-il ?
Alors, j'avais choisi Albéniz.
Albéniz.
Parole de lecteur. Monique Fauché.
Alors, physique. Et nous sommes toujours en compagnie de Bélita de Bangis et également d'Inès Suarez, cette héroïne du XVIe siècle, une héroïne qui n'a pas peur de traverser l'océan au XVIe siècle. Imaginez ce que pouvait être la vie sur ces bateaux dont on n'était pas sûr de l'arrivée. Donc, qui part à la recherche de son mari et qui découvre, n'est-ce pas, Bélita, qu'en fait, il est mort, ce mari.
Alors, quand elle arrive en Amérique, elle ne sait pas encore qu'il est mort. Donc, elle le recherche, donc elle paraît très crédible. Parce que partout, elle dit « je cherche Juan de Malaga, il m'a dit de le rejoindre ». Et finalement, elle arrive à retrouver sa trace, parce que c'est très difficile à l'époque de retrouver un petit conquistador qui est parti chercher de l'or uniquement. Et finalement, elle apprend qu'il est mort. Et donc, elle est veuve, et alors elle va recevoir de Pizarro, elle va recevoir une certaine somme d'argent parce qu'elle est veuve et espagnole. Et Pizarro défend les femmes espagnoles qui sont là-bas et qui ont eu l'audace d'arriver là-bas.
Nous allons parler de Pizarro, mais d'abord, Charles Quint, c'est lui qui a initié tout ça.
Alors Charles Quint, il ne faut pas oublier le rôle extraordinaire de Charles Quint, qui est à l'époque le...
Il avait un pouvoir énorme.
Un pouvoir énorme sur 28 millions d'hommes, ce qui est considérable à l'époque. N'oublions pas qu'il était en rivalité avec François Ier, qui voulait être aussi empereur à sa place. Donc, il y a eu beaucoup de batailles entre François Ier et Charles Quint. Charles Quint est un roi très chrétien. Il a été, au sein de l'Europe, quelqu'un de très important, parce qu'il a repoussé les Turcs qui voulaient toujours nous envahir. Et donc, il est protégé par le pape.
Au témoin d'un doute, il est allé jusqu'en Belgique, enfin, dans ses contrées.
Absolument.
Oui, c'est ça. Oui.
Absolument. Et donc, Charles Quint, il donne du pouvoir à ses conquistadors, et il leur demande d'aller apporter la foi, et si possible, peut-être des trésors, dans des terres qu'on ne connaît pas. En réalité, avant Pizarro, il y a Magellan qui est un Portugais qui ne s'entendait pas avec le roi du Portugal et qui avait été voir Charles Quint. Charles Quint lui avait dit « D'accord, vous pouvez partir ».
Il s'est mis sous la houlette de Charles Quint.
Absolument. Fernando de Magellan s'est mis entre les mains de Charles Quint et c'est lui qui a découvert le Chili et c'est là qu'il y a le détroit de Magellan. Voilà, le
D'accord.
premier,
D'accord.
c'est un Portugais.
Alors, je crois que vous allez nous lire un petit extrait concernant Charles Quint.
Alors, non, je n'ai pas d'extrait concernant Charles Quint, j'ai pris des notes.
D'accord.
Pour dire que c'est un grand... Ah oui, si, j'ai un extrait, pardon, j'ai un extrait de Charles Quint, qui en réalité, quand il envoie ses hommes dans ces contrées lointaines, il pense que ces hommes sont des hommes qui vont suivre les règles.
Il espère, en tout cas.
Il espère.
Et peut-être, Bélita de Bangis, pouvez-vous nous lire un extrait concernant, justement, Charles Quint.
Tout à fait. Alors, dans les édits royaux, notre empereur Charles Quint avait ordonné de traiter les natifs avec respect, de les évangéliser et de les civiliser par la bonté et les bonnes œuvres, mais ce n'était pas du tout la réalité. L'empereur, qui n'avait jamais foulé le Nouveau Monde, dictait des lois pleines de sagesse dans d'obscurs salons de palais forts anciens, à des milliers de lieues de villages qu'il prétendait gouverner, sans prendre en compte la sempiternelle cupidité humaine. Très peu d'Espagnols respectaient ces ordonnances, et le marquis-gouverneur Francisco Pizarro, moins que tout autre. Même le plus misérable Castillan qui était installé en Amérique possédait des Indiens pour le servir, et les riches propriétaires en avaient des centaines, car la terre et les mines ne valaient rien sans les bras pour les travailler. Les Indiens obéissaient sous le fouet des contremaîtres, mais certains préféraient donner une mort compatissante à leur famille avant de se suicider.
Vous disiez, hors antenne, qu'en fait, il y avait qu'une partie des Indiens qui se sont vraiment rebellés. Les autres étaient plutôt pacifiques.
Oui. En fait, alors, en ce qui concerne le Chili, ce sont les Mapuches qui se sont rebellés. Et chez les Incas, en réalité, j'ai découvert, après avoir lu ce livre, parce que j'ai fait des recherches, et le livre l'explique, les Incas, à part la classe régnante, qui était très très dur avec le peuple. Le peuple était soumis et les femmes étaient très malheureuses, les gens étaient très très malheureux. Et quand Inés Suárez arrive au Cusco, qui est la capitale de l'Empire Inca, elle trouve que les femmes sont belles et puis elle les regarde de près et elle trouve qu'elles ont toutes l'air tristes en réalité et que les hommes ont l'air tristes parce que ce sont des gens soumis et qu'on a un droit de vie ou de mort sur tous ces hommes, puisqu'à l'époque ils faisaient
des meurtres d'enfants.
Des meurtres d'enfants, oui. Et c'était fréquent. Oui. Donc finalement, c'est pour ça que les Incas se sont soumis peut-être assez facilement, parce qu'ils espéraient passer à quelque chose de plus doux peut-être que les Incas régnants.
Mais pourtant, alors Pizarro est arrivé.
Alors Pizarro est arrivé, il a trahi l'empereur Inca et ça a été épouvantable. Les Incas ont été massacrés, mais ils ne sont pas beaucoup battus. Et ça a été épouvantable ce qui s'est passé dans ce pays qui va devenir le Pérou, puisqu'il y a même eu une guerre civile entre Espagnols. Il y avait quand même des Hidalgos espagnols qui étaient choqués et qui trouvaient que Pizarro était parti avec ses quatre frères et c'était vraiment des types épouvantables, oui. Puisque même ils ont coupé la tête d'un grand d'Espagne qui était là pour la conquête et qu'il l'a maltraité, il lui a coupé la tête et Pizarro finalement a eu très peur parce qu'il s'est dit si Charles Quint l'apprend, c'en est fini pour moi. Alors finalement il a fait un enterrement qui était correct, mais sinon il aurait envoyé la tête dans les champs, enfin comme le faisaient les Incas, enfin c'était vraiment épouvantable.
Et alors que faisait Inés Suárez dans ce monde-là? Elle était aux côtés de Pizarro?
Alors en fait, quand elle est arrivée en Amérique du Sud, finalement, elle est arrivée près de Pizarro, puisque finalement, tous les Espagnols venaient près de lui. Et alors, elle a expliqué qu'elle se trouvait là parce qu'elle recherchait son mari, que finalement, elle était veuve. Donc Pizarro lui a donné une petite maison et elle a continué comme blanchisseuse, couturière et en faisant la cuisine. Et par hasard, elle rencontre l'homme de sa vie et ce qui va changer sa vie, elle rencontre
Pedro de
Valdivia. Elle rencontre Pedro de Valdivia qui tombe amoureux d'elle instantanément et elle tombe amoureuse de lui instantanément. Un bon roman d'amour qui est vrai.
C'était un chef.
Tous les deux sont des chefs, mais dans des domaines, ce sont des chefs complémentaires. C'est la parfaite complémentarité entre hommes et femmes. Voilà, puisque en fait, elle voit des choses qu'il ne voit pas, elle est très intuitive.
Oui.
Et alors, en plus, comme Pizarro va lui donner quelques indiennes, puisque là-bas, il y a des femmes esclaves.
Oui, oui.
Il y a des esclaves. En réalité, les Incas sont des esclaves. Voilà, il y a ou la classe dominante, ou les Incas sont des esclaves, et les Espagnols en profitent. Et cette femme, qui est vraiment une modeste couturière, elle va se retrouver avec trois indiennes qui lui sont données par ceux
qui travaillent pour elle.
Qui vont travailler pour elle. Et comme Inès est une femme simple et une femme intelligente, elle est extrêmement gentille avec ses femmes. Et elle apprend beaucoup de ses femmes. Et une de ses femmes a des dons pour deviner. Et à travers les graines de coquillage, elle lit l'avenir et le présent. Et tout le roman, à partir de la présence de cette Catalina, est imprégné des voyances de cette femme Inca qui lui dit « c'est l'homme qu'il te faut », parce qu'elle est complètement impressionnée, Inès, de voir ce général en chef qui va s'intéresser à elle, qui n'est quand même qu'une modeste couturière, qui fait des friands. Et alors cette Catalina lui dit « mais c'est l'homme de ta vie, vas-y ». Et en fait, elle va jouer un très grand rôle auprès de cet homme, parce qu'elle va l'aider à traverser la cordillère des Andes. Dans le désert, elle va trouver de l'eau, elle va comprendre les Indiens, parce qu'elle a cette femme à côté d'elle qui lui comprend, qui lui explique comment parler aux Indiens, comment se faire aimer des Indiens.
Elle lui ouvre des portes.
Elle lui ouvre des tas de portes. Alors en fait, nous avons le pouvoir d'un homme, macho jusqu'au bout des ongles, mais qui aime les femmes.
Et la connaissance de la population.
Et la connaissance de la population et l'intuition, l'intelligence et l'intuition. Oui. Et c'est vraiment une belle complémentarité.
Et alors, est-ce qu'elle va terminer ses jours avec Pedro de Valdivia?
Alors, elle ne terminera pas ses jours avec Pedro de Valdivia. C'est pas qu'elle ne le voudrait pas, c'est à cause de Pizarro, qui est un traître absolument tout le temps avec tous les Espagnols.
Un voyou,
si on peut le dire, vraiment, aujourd'hui on le dirait, parce que vraiment il n'a de respect pour personne, ni pour les Incas, même pour les Espagnols, même pour les femmes, même pour ses frères, enfin il est épouvantable. Et en fait, Pedro de Valdivia se laisse manipuler et il sera obligé de renier Inès. Et pour qu'Inès ne soit pas obligée de retourner en Espagne, elle doit se marier. Et comme Pedro de Valdivia ne peut pas se marier avec Inès parce qu'il est marié en Espagne avec une petite aristocrate qui est transparente et qui ne fait que de la broderie et avec lequel il s'est toujours ennuyé mais qui était très belle.
Oui.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il est quand même parti aussi à la conquête du Chili, parce qu'il s'ennuyait et qu'il n'osait pas le dire, qu'il ne voulait pas divorcer et qu'il avait un tempérament de feu. C'est un, quand même, il a une âme de conquistador.
Un conquistador, oui.
Il a une âme de conquistador. Donc il ne peut pas épouser Inès. Et Inès, si elle n'est pas mariée alors qu'elle est veuve, elle devra repartir en Espagne. Donc Inès va se marier avec un aristocrate qui est là et que lui choisit Pedro de Valdivia, et alors elle dit oui, et en fait elle oublie son amant qui est quand même impétueux, même si ça a été une histoire merveilleuse, finalement elle oubliera Valdivia. Et...
voilà. Voilà, alors, donc, avant de passer à cet homme nouveau, avec qui elle va faire de belles choses aussi, Rodrigo Quiroga,
oui.
Je ne sais pas si l'accent est bon, nous allons écouter un petit peu de musique, toujours de la musique espagnole, Melita?
Oui, ou... toujours.
Oui, toujours. Toujours.
Oui.
Parole de lecteur. Monique Fauché.
Inès de mon âme est le titre du roman que Belita de Bingy a choisi de venir nous parler. Il s'agit d'un roman écrit par Isabelle Allende, très connu, très apprécié, mais d'ailleurs édité dans le monde entier. Alors, Inès de mon âme, donc c'est Inès Suarez, qui a participé d'une certaine manière à la conquête du Pérou. Et hors antenne, vous avez parlé, non pas hors antenne d'ailleurs, Belita de Bingy, vous avez parlé des Indiens Mapuches. Ces Indiens se sont quand même rebellés. Ça a été des effusions de sang.
Alors, après... Pizarro au Pérou, enfin en pays Inca, il faut maintenant, Pedro de Valdivia part à la conquête du Chili. Parce que le Pérou et le Chili, il y a la cordillère des Andes qui les sépare. Et en fait, Pedro de Valdivia, il veut conquérir ce nouveau pays. Et là, ce ne sont plus les Incas, ce sont les Mapuches, les Indiens Mapuches. Et c'est une tribu tout à fait différente. Ce sont des gens qui ne veulent pas se soumettre. Et donc, il aura eu du fil à retordre pour arriver à conquérir le Chili. Et il y aura des massacres épouvantables. Parce que les guerres ne sont pas du tout comme les guerres que Valdivia a eu dans, en Flandre ou en Italie, où il a été vraiment un excellent conquistador, enfin pas du tout un conquistador dans ces pays, où il a été vraiment un militaire absolument remarquable. Et là, ce sont des façons de guerroyer qui sont très différentes, parce qu'ils ont une connaissance du pays et de la forêt.
Que n'ont pas.
Et en plus... Ils ne sont pas très nombreux. Les Espagnols ne sont pas très nombreux parce que les conditions de vie sont terribles. Il a fallu traverser le désert.
Doit attraper des fièvres, certainement. Non.
Alors, ils ont attrapé des fièvres, pas tant que ça, mais ils ont manqué d'eau, ils ont manqué de provisions. Les Indiens étaient très malins, ils cachaient, ils enterraient leur nourriture pour que les Espagnols ne les trouvent pas, et puis ils se retiraient. Donc, ils ont vraiment eu très très faim. Et ça a été... La conquête du Chili est une conquête vraiment très très difficile, ou avec très peu d'hommes, et le fait qu'il ait été avec Inés Suarez a certainement été très porteur, puisque Inés savait soigner les blessés, savait soigner les fièvres, savait cuisiner, enfin les encourageait, et il n'y avait pas qu'un homme guerrier qui conduisait les hommes, il y avait aussi une femme avec sa douceur et avec ses compétences médicales et avec son indienne qui, elle aussi, avait des compétences médicales. Donc, elles étaient deux femmes pour pouvoir soigner ce peu d'hommes qui est parti à la conquête du Chili.
Alors donc, on peut dire qu'elle a participé à la création de ce royaume du Chili.
Complètement, puisque à certains moments, Pedro de Valdivia sera obligé de partir pour essayer d'agrandir le territoire. Et donc, elle restera seule à Santiago pour tenir le village. Pour le moment, ça n'est qu'un village. Et alors, Pedro de Valdivia l'a nommé gouverneur quand même. Elle est la femme du gouverneur, puisque personne, les Mapuches se fichent complètement de savoir qui elle est exactement, mais ils voient que c'est une femme forte. Et quand Pedro de Valdivia sera loin, elle va subir une attaque des Mapuches. Et alors, ils sont une vingtaine dans ce qui est vraiment l'embryon de Santiago du Chili. Elle va faire un acte qui peut paraître complètement fou. Elle décide, pour ne pas que le village soit envahi par les Mapuches, elle va couper la tête d'un Indien Mapuche. Et les Indiens, en voyant cette femme qui a cette audace, tuer un Mapuche, ils se disent, soit une déesse, ils partent. Elle les fait partir absolument. Et elle a fait ça après avoir beaucoup réfléchi, en se disant, c'est ça, ou sinon, il n'y aura pas de Chili possible, parce que dès que Valdivia part, nous sommes attaqués.
Et vous dites aussi qu'elle avait des dons de sorcière, pas de sorcière.
Tout à fait, de sorcière.
Et qu'elle a trouvé de l'eau dans le désert.
Absolument, elle a trouvé de l'eau dans le désert parce qu'elle avait ce don. Et donc, elle a sauvé quand même l'expédition plusieurs fois en trouvant de l'eau, plusieurs fois par des actes qui ne sont pas des grands actes. Elle a sauvé l'expédition parce que pour conquérir un pays, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, et l'alimentation, la santé, l'apaisement qu'elle prodiguait aux gens, aux autres, a été très important.
Alors, on peut dire que dans cet ouvrage, on voit un récit historique, un récit d'aventure, parce qu'il y a des batailles, il y a des événements. Bon, par exemple, décapiter un homme, ce n'est pas rien. Et en même temps, on ne peut pas parler de ce... On a parlé quand même du côté sanguinaire des Espagnols à ce moment-là.
Tout à fait.
Elle, c'était exceptionnel.
Tout à fait. Oui. C'est tout à fait exceptionnel. En fait, je dirais que c'est pour l'Espagne qu'elle a fait ça. C'est pour que cette conquête du Chili ne soit pas vaine. Sinon, ils allaient tous être massacrés, et quand Pedro de Valdivia serait revenu, il n'y aurait plus rien eu. Et comme finalement les Espagnols étaient très peu nombreux, sa bravoure a été utile là, parce que les Mapuches, et après il y a pu avoir de nouveaux Espagnols qui sont venus aider, qui ont renforcé le petit bataillon d'Espagnols qui avait formé Santiago.
Oui. Alors, après tout, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais finalement, Inés Suarez, ou Isabelle Allende plutôt, qui est à la fois, vous avez dit, internationale, qui a vécu en Amérique du Sud, mais qui a beaucoup réfléchi, et puis on est au XXe siècle, au XXIe siècle, donc on a un autre regard. Elle admire à la fois cette femme, mais en même temps, elle voit bien quand même ce qui s'est passé au niveau des Indiens. Elle est très lucide.
Ah, tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors, je dirais, visiblement, Isabelle Allende est une féministe. Ce sont les hommes qui assassinent.
Oui.
Tandis que Inès, Donna Inès, elle se défend. Les hommes assassinent par cupidité. Par contre, jamais Pedro de Alvedra. Jamais. Lui, c'est un conquistador pur. Ça, elle le dit dans tout le roman, c'est un conquistador au sens noble du terme. Tandis que...
Ce n'est pas un tueur.
Ce n'est pas du tout un tueur, oui. Non, jamais. Ou alors, c'est de la légitime défense, mais...
Voilà. Alors, on lui donnera l'absolution, si voilà. On peut se permettre. En tout cas, un grand merci, Bélita. Bélita.
Oui, tout à fait.
Bélita de Manger. Un grand merci pour nous avoir partagé cette lecture. Inès de mon âme, vous pouvez donner également un autre titre. Vous en avez parlé, il me semble.
Oui, hein. Alors évidemment, il y a...
Elle a écrit...
Elle a écrit, évidemment...
La Maison
aux Estries, qui est sortie en film, qui est un très bon film et un très bon livre, qui est celui qui l'a fait connaître. Mais en fait, vous pouvez tout lire chez...
Elle a écrit Paula également,
elle a écrit Paula.
Très beau également.
Vous
oui.
pouvez lire Portrait Sépia. Tout est bon chez Isabelle Allende. C'est
voilà.
une femme à découvrir absolument.
Merci, un grand merci, Bélita de Bangy. Donc, Inès de mon âme, d'Isabelle Allende, voilà pour une lecture pour cet été. Merci.
Merci à vous.